Eh bien, écoutez, nous commençons cette soirée et je voudrais commencer en remerciant très vivement Jean-Louis Chrétien d'avoir accepté mon invitation et d'avoir souhaité aussi que cette soirée ait lieu sous la forme d'un échange, d'un débat autour de son dernier livre, Fragilité. Avant d'avoir oublié, je vous fais une demande, ne faire ni photo ni film. Alors, quelques mots pour présenter Jean-Louis Chrétien. C'est à peine utile, mais malgré tout. Donc, Jean-Louis Chrétien est professeur à Paris 4 Sorbonne, même si aujourd'hui, il a pris sa retraite afin d'avoir plus de loisirs pour écrire. Vous savez à quel point son œuvre est considérable. Et je ne vais citer que quelques titres parmi une liste impressionnante. L'effroi du beau. L'inoubliable et l'inespéré, de la fatigue, l'arche de la parole, sur Augustin et les actes de parole, la joie spacieuse, essai sur la dilatation et l'espace intérieur. La soirée va donc être consacrée à son dernier livre, Fragilité, que vous avez peut-être pu déjà lire, et elle va se dérouler de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais donner la parole à Camille Riquier, que je vais aussi présenter. Puis, je présenterai moi-même, sous un autre angle, je suppose, l'ouvrage de Jean-Louis Chrétien. Et ensuite, Jean-Louis Chrétien parlera lui-même. Et à la fin de la soirée, nous aurons un échange avec la salle. Vous pourrez poser vos questions si vous le souhaitez. Je remercie très particulièrement Camille Riquier d'être là, parce que j'ai bien cru comprendre qu'il avait quelques obstacles à venir ce soir. Et donc, il est maître de conférence à l'Institut catholique de Paris. Et il a beaucoup publié, notamment sur Bergson et sur Peggy. Je donne le titre de deux ouvrages. En 2009, Archéologie de Bergson, publié au PUF. Et en 2017, Philosophie de Peggy. Il a aussi contribué à l'édition de textes de Bergson, avec d'autres collaborateurs. Je signale en particulier qu'il a coordonné un numéro de critique de 2013 qui est consacré au patient questionnement de Jean-Louis Chrétien. Il est donc particulièrement apte à nous parler de ce livre. Je le remercie par avance.
Merci. C'est moi qui vous remercie de cette invitation qui m'est faite de parler de celui qui fut d'abord mon professeur. Je tenais d'abord à m'excuser, car depuis hier, je suis grippé, malade, et c'est donc depuis l'expérience de ma propre fragilité que je vais en parler, même si je doute que j'y puise la même lucidité que Jean-Louis Chrétien dans son ouvrage. Donc veuillez m'en excuser. Le titre « Fragilité » dit beaucoup sur son auteur, non pas seulement d'ailleurs en raison du mot qu'il a choisi, ou plutôt qui s'est imposé à son attention, mais en raison en fait de sa sobriété même, « Fragilité ». Un autre auteur, pour ne pas dire d'ailleurs quiconque, l'aurait probablement intitulé pour le moins « Philosophie de la fragilité » ou pour une philosophie de la fragilité, ou éthique de la fragilité, comme s'il fallait repenser le terme et appeler ses contemporains à l'envisager à nouveau. Mais probablement, il n'y a pas à défendre le mot, encore moins à édifier sur lui des considérations qui lui fournissent une signification nouvelle, accrue, car le mot, finalement, se défend tout seul. Il faut juste le laisser parler, l'accueillir en nous, être à son écoute pour qu'il se déploie et retrouve toute sa gravité sur nos lèvres, sur les lèvres de celui qui le prononce. Donc la manière dont le mot se présente à lui n'est pas celle dans laquelle d'ailleurs parfois je reconnais ma propre manière de travailler, quelque peu inquiétante à vrai dire, et que les psychologues désignaient autrefois du nom de monoïdéisme. Cette manière qu'a une idée, à force de fixer sur elle notre attention, démentée tout ce à quoi nous pensons afin de l'en nourrir. Ce n'est pas du tout ça dont il est question, ce n'est pas cette propension à l'idée fixe qui pourrait décrire le style de Jean-Louis Chrétien, quand celui-ci, justement, écrit sous la dictée d'un mot, et parfois d'un seul, comme c'est le cas ici et comme c'est le cas dans d'autres ouvrages. C'est-à-dire un mot qui lui rend visite, qui lui rend une visite inattendue, s'impose à son esprit, s'installe même à demeure, parfois plusieurs années, et ne le quitte qu'une fois qu'il lui a fait l'hospitalité d'y répondre. Ce n'est donc pas une idée qui lui vient à l'esprit, encore moins une idée pour laquelle les mots manqueraient pour la dire. Non, c'est bien un mot qui lui vient plutôt à l'idée et qui oriente son regard sur les choses. En sorte que l'écriture à laquelle il est conduit articule de manière conjointe phénoménologie et herméneutique. Pour distinguer éventuellement la manière dont procèdent Husserl et Jean-Louis Chrétien, nous dirions que pour décrire un phénomène, Husserl procédait à une variation eidétique qui isolait son noyau de signification. Simplement, le résultat avait pour effet une abstraction de l'essence. Jean-Louis Chrétien donne quant à lui à ses descriptions une plus grande concrétion en procédant à une variation textuelle qui fait varier les textes de la tradition autour d'un phénomène, en l'occurrence du phénomène de la fragilité, que le mot lui a indiqué d'abord et qui seul permet justement d'en saisir les nombreux aspects. Le résultat donc a pour effet de plonger, si je puis dire, l'essence de la fragilité dans l'histoire. Dans l'histoire du mot qui, loin d'être dépouillé progressivement jusqu'à l'abstraction, est enrichi peu à peu de toutes les descriptions dont il a été l'objet par les auteurs du passé. Et ceci d'ailleurs par-delà les champs disciplinaires, ces champs qui cloisonnent aujourd'hui les genres comme les périodes, et qui voudraient éventuellement qu'ils ne puissent communiquer entre eux. Je cite Sénèque, Plutarque, Ambroise, Saint-Augustin, Cassien, François Villon, Montaigne, Pierre Nicole, Pascal, Diderot, Baumgarten, Kant, Schelling, Chateaubriand, Baudelaire, Zimmel, Deleuze, et j'en cite assez pour laisser entrevoir une liste plus étendue encore. C'est ainsi que, lorsque l'auteur est visité, parfois plusieurs années, par un seul et même mot, c'est le mot qui lui parle, qu'il écoute, et auquel sa voix répond par les nombreuses voix qu'il accueille dans la sienne, et qui réveille chez le lecteur une mémoire plus vieille que lui-même, souvent engourdie en lui, et qui est celle, au fond, de toutes les anciennes humanités qui nous ont précédés. Et donc, en s'en tenant à un mot, il tend alors un fil sur lequel sa voix peut se poser et retrouver son timbre, son grain, son ton clair et parfois chantant. Notre modernité, qui rassemble dans ses vastes bibliothèques toutes les voix du passé, n'entend plus rien quand elle croit pouvoir s'élever au-dessus d'elle et les survoler, en butinant par exemple ici ou là ce dont elle a besoin en fonction des impératifs du moment. Notre modernité ne devient peut-être son propre recours que lorsqu'au contraire elle renonce à sa position de surplomb, qu'elle s'enfonce dans les textes au contact desquels la mémoire de l'humanité se recueille et s'ouvre aux anciens mondes sans lesquels elle ne peut se comprendre elle-même. C'est alors justement qu'elle peut les entendre, qu'elle les entend, et ce qu'elle croit avoir perdu en surface, elle le reconquiert en profondeur. Car ce n'est peut-être qu'en tenant un fil, aussi ténu soit-il, comme celui de fragilité, tel celui donc que l'auteur poursuit à travers ce mot, que notre subjectivité, prétendument souveraine, s'élargit, se dilate, et s'ouvre aux anciens mondes qu'elle croyait avoir dépassés, sans lesquels pourtant elle ne saurait se comprendre elle-même. Cette méditation donc sur la fragilité, qui nous est donnée ici dans ce dernier ouvrage, s'inscrit, à vrai dire, dans un projet beaucoup plus vaste de l'auteur. Un projet que Jean-Louis Chrétien a commencé d'entreprendre en 2005, avec Symbolique du corps. L'ambition générale est, depuis, de s'interroger sur les origines de la subjectivité moderne, en procédant, je le cite, à une généalogie des figures de l'intériorité et de la manière dont elle devient subjectivité. C'est donc une conquête de haute lutte que notre modernité pense avoir menée, le jour où elle affirmait que l'homme était un sujet, par quoi il trouvait enfin son fondement en lui-même, gagner son identité, son autonomie, sinon à tout le moins son indépendance. Et en cela, elle estime avoir obtenu son sens aussi riche qu'il est nouveau, qui lui donne même sa spécificité par rapport au temps plus ancien. Et en cela, et telle est probablement sa cécité propre, ce n'est pas même soupçonné à quel point l'histoire nous détermine et la détermine. Et peut-être d'ailleurs la modernité ne vit que de cela, de cet oubli primordial, qu'elle interprète en sa faveur comme une rupture inaugurale et parfois comme une victoire de l'homme sur Dieu ou sur la nature. Or, reconduire la subjectivité à ses origines lointaines et oubliées, comme le propose Jean-Louis Chrétien, opère à vrai dire un renversement total de perspective dans la manière de l'envisager, d'envisager cette subjectivité en comprenant sa genèse. Car sitôt qu'on inscrit la notion de subjectivité moderne dans une histoire plus longue, telle qu'elle procède elle-même de significations plus riches et variées de l'intériorité, telle qu'on en trouve aussi la description dans la tradition antique et médiévale. Alors, cette subjectivité dont, au fond, notre modernité s'enorgueillit, n'apparaît plus comme un gain de sens, mais au contraire comme une perte, du moins comme un appauvrissement de ce que sainte Thérèse d'Avila appelait, selon une tradition qui remonte à la Bible, notre château intérieur. Autre fil que Jean-Louis Chrétien avait suivi dans un précédent livre, en 2014, l'espace intérieur. C'est ainsi qu'il faut comprendre l'un des derniers chapitres de l'ouvrage, aujourd'hui présenté, et intitulé « Kant et l'exténuation de la fragilité ». Dans l'un de ses grands ouvrages, « La religion dans les limites de la simple raison », Kant ne faisait de la fragilité que le premier degré du penchant au mal, et le moindre de ses moments, avant ceux d'impureté et de méchanceté qui prenaient le relais en quelque sorte dans l'analyse. Mais plus encore, la fragilité était chez lui identifiée à la seule faiblesse. Et par ce mot, Kant se contentait de constater au fond notre impuissance. Notre impuissance à accomplir droitement nos bonnes intentions sans que de motifs plus vils ne les infléchissent et au fond ne les recourbent sur nous-mêmes. La lecture de Jean-Louis Chrétien, ici par exemple, montre comment Kant appauvrit le sens de la fragilité, pour autant que celle-ci ne doit pas compromettre le volontarisme radical de la subjectivité morale et moderne. Car la subjectivité kantienne, où le mal au fond n'est pas aussi radical qu'il ne le dit, où le mal n'est jamais assez radical pour supprimer le rapport à la loi, doit pouvoir toujours puiser en elle-même les ressources capables d'accomplir son devoir moral et donc de conjurer sa propre impuissance, devenue notre ennemi intérieur. En sorte que la fragilité devient pour Kant, je cite Jean-Louis Chrétien, non pas cette inguérissable faille qui traverse l'homme, ce dont il va être question aujourd'hui, et qui au fond fait notre irréductible condition humaine, la fragilité pour Kant devient cette faiblesse en nous qui est nôtre, et qui est nôtre pour autant que la subjectivité requiert d'elle-même une vigilance de tous les instants, afin que la vertu qu'elle cultive soit, je le cite, un combat perpétuel et s'ouvre sur un progrès infini. Manière de récupérer à soi sa propre faiblesse. C'est ainsi que ce qui peut être pour la philosophie moderne un point de départ n'est plus, vous le voyez dans cette optique renversée, qu'un point d'arrivée. Ce point où la subjectivité moderne a évacué d'elle, entre autres, la fragilité, qui en compromettrait l'exercice en, finalement, vidant cette notion de son sens, du moins en réduisant considérablement sa signification. Autrement dit, par la suite, après Kant, la philosophie moderne peut encore employer le mot, on peut toujours parler de fragilité, encore que cela se fasse plus rarement, mais elle a oublié la chose. Elle a oublié la chose même, et dans l'horizon d'une subjectivité constituante, au fond qu'aucune fracture intérieure ne peut plus menacer, ne peut plus menacer d'effondrement, eh bien l'usage du mot devient complètement superflu. C'est ainsi, mais il le fait de façon parfaitement incidente, pour tel ou tel auteur contemporain, qu'ils peuvent encore, comme Paul Ricoeur, parler de fragilité, mais le thème n'y est plus explicité. Et effectivement, ce serait le cas d'autres auteurs contemporains, et au fond de toute une tendance actuelle, à infléchir les considérations éthiques, politiques et écologiques autour de la fragilité, en tout cas de ce qu'il pense être la fragilité, mais qu'il nomme probablement d'ailleurs de façon plus juste la notion de soin et de vulnérabilité, confondue justement à tort avec la fragilité. Pour les distinguer, comme le fait Jean-Luc Chrétien, est fragile un homme ou une chose, ce qui peut se briser. C'est-à-dire, lorsqu'une faille ou une ligne de fracture traverse de l'intérieur un être, au point qu'elle en constitue une possibilité propre. La fragilité de l'homme est donc telle qu'il peut, selon des fêlures qui lui sont propres, se briser et s'effondrer. En revanche, est vulnérable, je le cite, ce qui peut être blessé, ce qui suppose, comme il le dit, une atteinte venant de l'extérieur. En quoi d'ailleurs seul un vivant peut être dit vulnérable. En sorte aussi, on le devine, que, puisque aujourd'hui, toutes nos réflexions tournent autour plutôt de la vulnérabilité que de la fragilité, on le devine, si le danger n'est qu'extérieur, dès lors, il est possible de s'en protéger. Il est possible de protéger la vulnérabilité des vivants en leur offrant une sécurité toujours plus grande qui garantit leur intégrité. Et il devient aussi légitime de demander à l'État qu'elle soit garante de ce droit. Autrement dit, le terme de vulnérabilité cache secrètement un désir d'invulnérabilité, dont l'auteur nous permettrait de faire remonter le sens aux stoïciens, et à Sénèque en particulier. Si Sénèque estime, lui aussi, que la vraie consolation commence par désolé, c'est qu'il s'agit de rappeler à l'homme sa caducité, sa condition malheureuse, mais dans l'intention de lui fournir le remède qui lui permettra de la surmonter, remontant en nous-mêmes, en cette partie supérieure et divine de nous-mêmes, qu'est la raison, où l'homme pourra s'isoler comme en une citadelle que rien d'extérieur ne peut venir assiéger. Désir d'invulnérabilité dont le projet sécuritaire se retrouve dans un grand nombre de traditions morales et philosophiques, qui ne peut, comme le dit Jean-Louis Chrétien, qui ne peut que mépriser la matière fragile dont l'homme est fait. Et là, d'ailleurs, il ne le dit pas, ce sont les auteurs eux-mêmes qui le disent, citant Sénèque dans ses lettres à Lucilius. Voilà ce que Sénèque disait à Lucilius: « Méprisons tout ce qui est à tel point de peu de prix qu'il est douteux qu'il soit vraiment. » C'est-à-dire, au fond, mépris de la condition humaine elle-même. Autrement dit, le terme de vulnérabilité, loin d'assimiler à lui celui de fragilité, en constitue son oubli le plus radical. C'est-à-dire, au fond, encore une manière d'exister notre fragilité, la plus périlleuse, car elle la nie. Car comprenons, il n'y a pas de sens à donner à la fragilité autrement que dans la manière même dont je me rapporte à elle, dans la manière même dont l'homme se rapporte à elle. L'auteur fait remarquer que, contrairement à la vulnérabilité, le terme de fragilité, justement, n'a pas d'antonyme, n'a pas de contraire, sinon forcé et arbitraire, comme force ou solidité. Si la fragilité n'a pas d'antonyme, c'est qu'elle est justement inséparable de notre condition humaine, qu'elle la traverse de part en part. Donc, le sens que je donne au mot « fragile » est inséparable, vous le voyez, de la manière dont j'existe ma propre fragilité. C'est dire qu'en la réduisant à la vulnérabilité, notre modernité oublie, littéralement oublie, la fragilité humaine comme dimension constitutive de sa finitude. Mais elle ne fait pas que cela. Non seulement elle se refuse à l'admettre, mais par ce déni, elle ne fait que l'aggraver. En sorte qu'aujourd'hui, ce serait peut-être une des conclusions, en tout cas que je peux lire dans le livre, notre fragilité la plus grande réside dans l'oubli de notre fragilité, celle que nous refusons de voir. C'est notre manière toute moderne d'exister notre fragilité, de creuser les lignes de faille qui nous constituent au risque d'un effondrement intérieur. Alors déjà, je m'excuse à nouveau, et qu'on veuille bien me pardonner, de donner justement un ton polémique à un ouvrage qui s'y refuse, où il n'y a pas du tout un tel ton, et qui entend au contraire décrire la fragilité dans sa positivité même. Ce à quoi, effectivement, ni la tradition moderne, ni la tradition grecque ne parviennent. Et d'ailleurs, pas plus que Jean-Luc Chrétien ne prolonge son analyse au-delà de Kant, sinon par simple suggestion, il ne s'attarde sur la tradition grecque, la philosophie grecque, sinon ici ou là, ou dans quelques notes. Quoiqu'il estime, justement, que par le terme d'asthénia ou d'akrasia, la philosophie grecque a manqué, elle aussi, l'essence de la fragilité, qu'elle ne pense justement que négativement, comme faiblesse. Et le « a » privatif d'akrasia ou d'asthénia l'indique en effet, manque de force, manque de tonus ou manque de volonté. Et quoi qu'il l'ait dit, fermement, aussi fermement que brièvement, certains lecteurs, peut-être peu attentifs, ont pu lui reprocher ce qu'ils croyaient être des manques dans l'analyse. Mais comprenez-le, c'est que le livre a pour fin, et a pour fin seule, d'accueillir toutes les voix qui ont parlé de la fragilité, de restituer au mot ainsi toute sa richesse de sens, et non pas justement, comme en un sens j'ai commencé à le faire, non pas d'écarter les voix qui parfois les ont recouvertes et nous empêchent de les entendre. Alors peut-être est-ce là ma situation propre qui m'y invite, peut-être est-ce même le destin de l'élève que d'être plus critique et virulent que le maître, et d'ailleurs de l'être d'autant plus qu'il n'a pas lui-même formulé les idées qu'il défend, c'est mon cas, mais nous ne pouvons pas ne pas tirer d'autres fruits plus amers, de notre lecture de fragilité, en en faisant en quelque sorte un usage critique, qu'il me pardonne. Mais c'est au fond aussi la manière dont je poserai ma question. C'est que s'il y a des voix qui nous font entendre toutes les harmonies que contient le mot de fragilité, il y a peut-être d'autres voix plus bruyantes parce qu'elles nous sont plus proches, qui les recouvrent et qui nous empêchent de les entendre. Et alors, plutôt que de suivre le cours de l'histoire, qui, pour le mot de fragilité, trouve sa plénitude dans la tradition latine et chrétienne, sur laquelle va revenir Isabelle Bauchet juste après, nous pourrions justement suivre en quelque sorte le mouvement inverse et partir de notre modernité, c'est-à-dire la déconstruire, afin de pouvoir justement se rendre à nouveau sensible aux voix plus lointaines. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être, pour le malentendant que je suis, un profit à opérer ce que Heidegger appelait une destruction, c'est-à-dire une désobstruction qui permettrait à un phénomène d'être reconduit à son sens d'origine. Car si notre modernité se pense elle-même, avec des mots dont elle a oublié le sens, au fond recouvrant la réalité au lieu de la révéler, peut-être faut-il, en tout cas pour certains, en faire la critique, afin de nous rendre aptes à entendre son sens oublié. Prenons un exemple qui n'avait, vous l'avez compris, aucune raison de figurer dans ce livre, par toutes les raisons que j'ai dites, mais qui, d'une certaine manière, nous permettrait d'illustrer notre propos et de voir aussi la fécondité de cette lecture. L'être et le néant de Sartre. Les exemples fameux de l'être et le néant, d'ailleurs, le garçon de café ou la coquette, ont fait oublier que ce livre, qui paraît en 1943 dans un pays en guerre et même sous occupation allemande, est un livre dont le but aussi est de révéler la condition de l'être humain, comme le dit Sartre, à partir de son être en guerre. Pour Sartre, l'homme est un être pour la guerre, comme il l'était pour Heidegger, un être pour la mort. Pour Sartre, la guerre lui est constitutive et c'est ce que sa situation lui révèle, une fois la guerre arrivée, par cette situation qui a été faite à Sartre, je le cite dans les carnets de la drôle de guerre, préparant l'être et le néant, elle devient un point de vue privilégié pour que l'homme réalise et comprenne son être dans le monde, entre parenthèses, parce que cet être dans le monde devient en danger. Mieux encore, poursuit-il, c'est l'être dans le monde de l'homme, c'est la réalité humaine elle-même vue sous l'angle de la fragilité, de l'absurde et du désespoir, et par la même mise en relief. Il s'agit en quelque sorte, avec l'être et le néant, de décrire l'être dans le monde de l'homme, mais vu sous l'angle de la fragilité. Voilà ce que nous dit Sartre. Non seulement la guerre n'est pas accidentelle, mais elle est un des modes de l'être dans le monde de l'homme. Mais parce que l'homme y est mis en danger, nous dit-il, elle révèle mieux qu'aucun autre mode la fragilité humaine et donc la réalité humaine comme telle. Autrement dit, si Sartre réussit à porter à son comble, on va le voir aussi rapidement, l'exigence de radicalité que la liberté humaine contient, c'est précisément parce qu'elle lui fut révélée par sa situation d'être en guerre, sans phare, sans voile, dans sa nudité, dans son exposition. Je le cite encore, « L'exil, la captivité, la mort surtout que l'on masque habilement dans les époques heureuses, nous en faisions les objets perpétuels de nos soucis. Nous apprenons que ce ne sont pas des accidents évitables, ni même des menaces constantes mais extérieures. Il fallait y voir notre lot, notre destin, la source profonde de notre réalité d'homme. » C'est-à-dire que être et néant, l'être et le néant, c'est aussi cela. C'est-à-dire voir toute chose sous l'angle de ce qu'il appelle, attention, la fragilité. C'est-à-dire ne pas voir une ville sans voir aussi tout de suite la possibilité de sa destruction. Et le terme d'ailleurs apparaît assez souvent dans l'être et le néant. Autrement dit, l'opération en quelque sorte chirurgicale qui va séparer nettement chez lui le pour soi et l'en soi, comme deux modes d'être de l'homme, de l'être, pardon, suppose le lent travail où une liberté se réalise face à la guerre. Simplement, vous le voyez, toujours lorsqu'il parlait de fragilité, il n'avait été question que de vulnérabilité. Et ce n'est absolument pas un hasard si la liberté conquise, qu'il veut absolue, soit par-delà Descartes, toujours référée aux stoïciens, à la liberté stoïcienne, où finalement on peut voir en cette liberté une autre citadelle. Donc se révèle encore, d'une certaine manière, cette confusion entre fragilité et vulnérabilité. Toutes ces voix qui, peut-être, nous ont empêchés d'entendre son sens d'origine. Pourquoi ? Parce que pour lui aussi, le danger n'est qu'extérieur. Pour terminer, pour conclure, mais réservant, si je puis dire, la meilleure part à l'exposé suivant, en convoquant toute la tradition latine et chrétienne, puisque c'est là que le mot prend son sens le plus fort, je terminerai néanmoins par une note positive. Ce n'est peut-être que ma propre fragilité d'aujourd'hui qui m'a amené à infléchir mon propos de façon aussi négative. Fragilité, comme il le rappelle, vient du latin « fragilitas », mais il fallait en quelque sorte que le Nouveau Testament, quoi qu'il ne contienne pas le mot, vienne épouser le latin, vienne épouser la langue de Virgile, pour que son sens, comme il le dit, s'en trouve transformé, transfiguré. En sorte que c'est dans ce mot que la phrase de saint Paul trouve toute sa pertinence, celle de l'Épître aux Corinthiens. « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parce qu'il nous apprend qu'il y a aussi une manière d'exister notre fragilité avec lucidité. Et que, chez un certain nombre d'auteurs chrétiens, cette force, lorsqu'elle est justement discernée en nous, peut devenir, pardon, cette faiblesse, lorsqu'elle est discernée en nous, peut devenir notre force. Et que notre force, au fond, ne peut que croître à même la faiblesse. Et donc, ce n'est qu'à la lumière de l'espérance, de la foi, de la charité, que la fragilité nous offre sa face lumineuse, comme l'écrit Jean le Chrétien. De telle sorte que ce n'est qu'en discernant nos failles, ce n'est que depuis le lieu où nous chutons, qu'il devient possible de nous relever et que force et faiblesse, si je puis dire, entrent l'un dans l'autre comme en un chiasme. Et pour montrer en quelque sorte que cette lecture m'a été ou a agi sur moi de façon positive aussi, je terminerai sur Peggy, dont nous partageons la lecture et qui conclut ce livre en reprenant des admirables pages du Porche du mystère de la seconde vertu où, comme il le dit, Peggy, quoique contemporain, ait entendu le sens dans son étymologie même, comme ce qui peut se briser, ce qui n'est pas le cas en quelque sorte de Sartre ou de tant d'autres. Et la chose la plus étonnante, c'est que lorsque j'écrivais mon livre sur Peggy, je remercie Jean-Luc Chrétien, d'abord parce que nous partagions cette lecture. Et je lui disais que je ne pouvais pas même soupçonner jusqu'à quel point, en quelque sorte, son enseignement m'avait pénétré et que j'étais incapable de dire ce qui était de lui ou ce qui était de moi ou surtout ce qui était aussi de Peggy. Ce livre paraissant plus tard, j'en mesure un peu plus encore, en quelque sorte, les effets, et qu'on me permette de conclure ainsi, qui est pour moi qui est une manière de remercier. Mon livre s'appelle « Philosophie Peggy », mais le sous-titre, qui reprend un ouvrage que Peggy aurait voulu écrire, s'intitule, se sous-intitule « Mémoire d'un imbécile ». Et j'ai voulu, en quelque sorte, m'attacher à une infirmité de Peggy. Mais je me disais, mais pourquoi ai-je été aussi attentif à cela même, si je puis dire, que d'autres commentateurs auraient voulu cacher l'infirmitas de Peggy, lui qui se disait imbécile. C'était sa faiblesse. Et d'ailleurs, dans Fragilité, on trouvera un passage, dans Sénèque d'ailleurs, où imbécilum est rattaché à fragile. L'imbécile, c'est d'une certaine manière une faiblesse. Et étymologiquement, c'est celui qui, par une faiblesse constitutive ou à cause de l'âge, devient faible, porte sa faiblesse. Littéralement, c'est celui qui est dépourvu de béquilles ou qui a besoin de béquilles. C'est-à-dire que l'homme, en quelque sorte, imbécile, c'est celui aussi qui a besoin de béquilles. Peggy, c'est celui, en quelque sorte, qui a reconnu sa propre faille, s'est découvert lucidement dans sa condition, avec ses propres failles, pour, en quelque sorte, y puiser aussi ses propres recours. Et c'est ce qu'il disait. J'ai besoin, en quelque sorte, de ça, de savoir où sont mes infirmités, pour pouvoir m'appuyer sur d'autres instances, qui fut pour lui d'abord la race, et qui fut ensuite la grâce. C'est, si je puis dire, de l'endroit même où il a chuté, qu'il s'est relevé. C'est depuis sa propre imbécilité que j'y voyais son génie propre et son génie poétique. Et je mesure à quel point, en quelque sorte, il fallait des yeux pour aussi le voir ainsi chez Peggy, et que ses yeux, c'est Jean-Luc Chrétien qui me les avait donnés. Je vous remercie.
Très grand merci, Camille, pour cette présentation du livre dans sa visée et de façon beaucoup plus large aussi dans l'œuvre de Jean-Louis Chrétien. Je pense que vous donnez des clés de lecture importantes pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre et en tout cas qui peuvent vraiment les éclairer. Mon propos sera beaucoup plus modeste. J'ai choisi un peu volontairement et peut-être un peu sur votre suggestion de me centrer surtout sur le chapitre 7 consacré au père de l'Église latine, Ambroise, Cassien et Augustin. Mais je voudrais néanmoins dire quelques mots avant d'en arriver là. D'abord dire ma joie en lisant ce livre, un très beau livre, une vraie méditation sur la fragilité qui, comme l'a très bien dit mon voisin, doit être vraiment distinguée de la vulnérabilité. comme l'explique Jean-Luc Chrétien dès le point de départ, on peut se briser soi-même et non sous l'effet d'un choc, alors que la vulnérabilité suppose une blessure qui vient de l'extérieur. Donc la fragilité, c'est une possibilité inscrite dans la constitution propre de l'être en question. J'oserais presque dire, mais je consonne tout à fait à ce qu'a dit Camille Riquier, un éloge de la fragilité, avec tout ce que cela a de paradoxal. La fragilité n'est-elle pas en effet ce qu'on veut abolir, en tout cas surmonter, alors qu'en fait, elle est notre condition indépassable. Elle est plus encore, comme le montre notamment dans son épilogue Jean-Louis Chrétien, le lieu de la transmission de la parole éternelle. Et j'ai été frappée moi aussi, mais avec beaucoup moins de peut-être de raison que mon voisin, par les vers que vous avez cités dans la conclusion, qui me semblent dire quelque chose de l'ensemble de l'ouvrage, donc dans le porche du mystère de la Sainte Vertu. Permettez-moi de dire d'en citer quelques vers. Fragile, c'est de nous que dépend la parole éternelle, que la parole éternelle retentisse ou ne retentisse pas. Dans des cœurs qui se brisent, une parole est conservée, est nourrie qui ne se brisera éternellement pas. Miracle, c'est le vase qui se brise même perpétuellement, et il ne perd pas une goutte de la liqueur. Comme vous l'avez entendu, la brisure devient ici la condition même de la transmission. Quand ce qui est à transmettre est sans commune mesure avec celui qui transmet. Il y a deux temps bien distincts dans la réflexion de Jean-Louis Chrétien, que j'évoque juste d'un mot. Une première partie qui part de lieux et de symboles récurrents de l'humaine fragilité, la naissance, le ver, les ruines, et qui explore aussi les liens entre beauté et fragilité. Et une seconde partie qui analyse le concept de fragilité et ses transformations dans l'histoire. Depuis Sénèque, où la fragilité est présentée comme ce qui doit être surmonté, jusqu'à Kant et allusivement quelques autres auteurs postérieurs, où le sens de la fragilité est, je cite, « réduit, affaibli, exténué ». Car comme l'a expliqué Camille Riquier, et comme le montre d'abord Jean-Louis Chrétien et Kant, la fragilité n'est que le premier moment indéterminé du penchant au mal dans la religion dans les limites de la simple raison. Mais depuis Sénèque jusqu'à Kant, en passant par les pères de l'Église, Ambroise, Cassien et Augustin, qui, tout en reprenant l'usage classique du terme « fragilitas » chez les auteurs latins classiques, en infléchissent et en élargissent le sens de façon radicale. Et donc, je voudrais tout simplement vous donner une idée de la richesse, notamment de ce chapitre et donc de cette tradition patristique que Jean-Louis Chrétien connaît très bien, et peut-être faire quelques variations, quelques prolongements à partir de là. Comme l'a dit aussi mon voisin, j'ai été moi-même éblouie par la multitude de textes si bien choisis qui entrent en résonance et donnent une profondeur inattendue à telle ou telle phrase, parfois totalement inconnue d'un auteur. Et il me semble que Jean-Louis Chrétien nous donne ainsi à découvrir des textes dont la profondeur symbolique va de pair avec la densité existentielle. Et ce qui me réjouit tout particulièrement, c'est qu'il nous invite à redécouvrir les trésors de la littérature chrétienne antique, trop souvent ignorés, peut-être aussi faute de traduction française, puisque un certain nombre des textes que vous avez cités n'existent pas en traduction française. Je rappelle tout d'abord, comme vous l'avez fait, que « fragilitas » est un mot qui n'appartient pas au Nouveau Testament, mais qui est important pour Ambroise, Jean Cassien et Augustin. Fragilitas, de fait, ne se substitue pas à infirmitas, faiblesse, mais souvent se compose avec lui, et on le voit aussi bien chez Ambroise qu'Augustin notamment. Et il devient chez ses auteurs un mot essentiel pour désigner une dimension de la condition humaine. Alors, il y a ce qui est spécifique chez ces auteurs, c'est que fragilitas est employé en rapport avec la volonté et les mœurs humaines, alors que c'est extrêmement rare dans les textes profanes. Et donc, ça va donner une nuance de sens bien différente et une profondeur de sens tout à fait autre. Ce qui caractérise la vision des pères de l'Église, c'est qu'ils pensent la fragilitas en lien, bien évidemment, avec la chute de l'homme. Nul ne peut être sans péché. Mais en lien aussi, et peut-être surtout, avec l'incarnation, Dieu lui-même vient habiter la région de la fragilité en assumant une âme et un corps humain. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter un peu sur ce que Jean-Luc Chrétien dit d'Ambroise, et en particulier sur un texte qui m'a fait relire de façon autre et nouvelle. Je n'avais pas. C'est ça l'intérêt de cette lecture, c'est qu'on revisite des textes et on en découvre d'autres profondeurs. Un beau texte d'Ambroise dans les homilies sur Luc, la cinquième homilie sur Luc, à propos de Luc 7, 24. Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau balancé au vent. Et ce qu'Ambroise explique, c'est que nous sommes des roseaux agités par la mobilité de la vie, qui, comme le roseau se plaît au cours du fleuve, eh bien nous, nous nous plaisons à ce qui s'écoule et à ce qui s'en va, à la fragilité de la vie. Mais, explique Ambroise, si on arrache le roseau, si on le dépouille du superflu, on peut en faire une plume pour écrire dans les cœurs les préceptes de l'Écriture. C'est bien sûr une allusion à 2 Corinthiens 3, 2. Et il poursuit en expliquant que le roseau par excellence, c'est le Christ lui-même à qui on applique souvent le verset du psaume 44, « Ma langue est la plume d'un scribe à l'écriture rapide ». Et Ambroise d'ajouter qu'il nous faut imiter le Christ, trempez votre roseau, c'est-à-dire votre chair, non dans l'encre, mais dans l'esprit du Dieu vivant, pour que ce que vous écrivez soit éternel. Ce qui, bien sûr, a été fait par Paul le premier, lorsqu'il écrit en 2 Corinthiens 3, 2, 3, « Notre lettre, c'est vous, écrite non avec de l'encre, mais par l'esprit du Dieu vivant. » Et Ambroise de conclure, ne vous penchez pas vers la terre de peur de briser votre roseau. Et il explique cela en citant en même temps Isaïe 42, 3. Il ne brisera pas le roseau broyé. Ambroise explique pourquoi. Car cette chair que les péchés avaient broyée, le Christ l'a raffermie par sa résurrection. Alors, comme le note très bien Jean-Louis Chrétien, ce qui est décisif ici, c'est la transfiguration de la fragilité elle-même. Elle n'est pas abolie ni supprimée, mais elle est transformée par un autre usage que la vanité, ce qui l'a fait agir et opérer dans une autre dimension que celle où elle se tenait et qu'elle croyait la seule possible. Je cite ici. Et encore cette phrase, « Car c'est précisément la souplesse et la flexibilité du roseau qui lui permet d'être plume. » Alors, je pense que vous avez peut-être été sensible à cette transfiguration, à cette transformation, comment le roseau flexible et fragile devient la plume qui permet d'écrire, mais non pas n'importe quoi, qui permet d'écrire dans les âmes avec l'esprit. Je note qu'ici, Ambroise, en s'appuyant sur Isaïe 42,3, précise que le Christ ne vient pas briser le roseau. Il vient, au contraire, raffermir la chair. Et alors, je me suis étonnée, mais c'est un peu une question, que Jean-Louis Chrétien, à plusieurs reprises, en même temps je comprends bien pourquoi, semble introduire une brisure là où le texte, parfois, semble plutôt l'exclure. Bien sûr, je ne l'entends pas comme une lecture trop rapide du texte d'Ambroise, mais peut-être plutôt comme une sorte d'inflexion de la lecture, un prolongement de la lecture, qui peut-être tire un peu Ambroise vers Augustin, ce n'est qu'une hypothèse. Je note, j'ai pris deux exemples. Page 165, vous citez le commentaire du psaume 118 d'Ambroise. Je cite Ambroise. « Ce qu'opère la méditation de la loi est que nous puissions supporter et tolérer les moments de tribulation, les moments où nous sommes jetés à terre, humiliamur, par des événements contraires, en sorte que nous ne soyons pas brisés par un sentiment excessif d'écrasement et d'abattement. Le Seigneur ne veut pas nous briser par l'humiliation jusqu'au désespoir, mais pour que nous nous corrigions. » Autrement dit, pour Ambroise, la méditation de l'Écriture, c'est ce qui nous permet d'être humiliés par l'adversité sans pour autant être brisés. Mais pourtant, Jean-Louis Chrétien continue, il y va d'un bon usage de la brisure ou de la fêlure. Alors, je comprends bien sûr ce qu'il veut dire. La brisure dont il veut parler, c'est celle que produit déjà en nous l'humilité. Et celle dont parle Ambroise, c'est plutôt l'écrasement par l'adversité, une brisure dont nous sommes préservés par le Seigneur. Toujours à propos du commentaire du psaume 118, dont il n'y a pas de traduction française, Jean-Louis Chrétien cite ces mots. C'est à propos d'une mère qui attend le retour de son fils d'un pays lointain, et le prolongement, c'est ensuite sur l'attente du salut. Plus harassée est l'affection, plus fortement croît l'amour, et plus longtemps s'absente celui que nous désirons, d'autant plus que les désirs de celui qui l'attend s'embrasent comme par la force de l'amour. La chair défaille, mais le désir se nourrit et s'augmente. Donc il y a bien une défaillance, celle de la chair, tandis que le désir augmente. Et transposé à l'attente du salut de Dieu, Ambroise continue en disant que cette défaillance d'effectio opère certes un amoindrissement de la fragilité et une réception de force. Alors, je comprends qu'Ambroise lit ici la défectio carnis, donc la défaillance de la chair face à l'adversité, à l'amoindrissement de la fragilité morale. J'ai dit au départ que ce qui est le propre de la fragilitas chez Ambroise, c'est qu'il en voit le sens moral comme penchant au mal. Mais Jean-Louis Chrétien, lui, souligne plutôt la transfiguration de la fragilité qui s'opère ainsi. Je le cite. Cette défection qui fortifie, ce défaut qui élève, cette brisure qui enflamme, que saint Augustin commentera à son tour et qu'on trouvera chez de nombreux mystiques à propos de la blessure d'amour du Cantique des Cantiques, mettent en évidence une transfiguration de la fragilité, à même l'épreuve que nous faisons d'elle, toute opposée à l'équanimité du philosophe indifférent aux événements. Bon, l'équanimité du philosophe indifférent aux événements, je pense que vous pouvez penser notamment à Sénèque et aux stoïciens. Alors, je me pose une question. Est-ce qu'Ambroise, finalement, ne se défie-t-il pas plus, que vous ne le dites, de la brisure, de la fragilitas ? Est-ce qu'il ne l'exclut pas comme ce qui détruit l'homme, même s'il donne toute sa place à la defectio carnis, à l'épreuve, comme lieu où l'amour peut croître ? Et il me semble, mais je connais beaucoup mieux Augustin qu'Ambroise, que c'est Augustin qui associe très expressément la brisure à ce qui rend l'homme humble et qui, de ce fait, Augustin donne donc du coup à la brisure un sens positif. J'en viens donc à Augustin, en laissant provisoirement Jean Cassien au moins, mais je peux parler de Jean Cassien si vous le souhaitez. Quelques mots d'abord à propos d'Augustin. Il y a, comme l'explique très bien Jean-Luc Chrétien, en fait, deux sens de la fragilité chez Augustin. On peut dire la fragilité, elle est peut-être comprise comme possibilité inscrite dans la nature de tout homme, autrement dit, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui la finitude, ou encore comme caractéristique de l'homme déchu. Et pour le montrer, Jean-Luc Chrétien cite un très beau texte du Contra Secundinum, au paragraphe 19, qui part d'une analogie. Si on peut fendre le bois, c'est parce qu'il présente, d'une certaine façon, une faille, une fragilité. Eh bien, de la même façon, on peut dire que, bon, c'est contre les manichéens, la corruption n'est possible que parce que l'homme est corruptible. Tout comme l'homme est, je parle le latin, aegrotabile, susceptible d'être malade avant d'être malade. Et Jean-Luc Chrétien souligne à juste titre l'association entre fragilité et mortalité, dans la mesure où cette fragilité et cette mortalité, nous l'avons méritée en péchant, comme l'explique Augustin dans son commentaire de l'Évangile de Jean. Donc, à ce moment-là, la possibilité, quand elle devient acte, quand elle est passée à l'acte, eh bien, disons, devient la caractéristique de l'homme déchu. Donc, vous voyez l'écart entre ces deux sens. Alors, il me semble que Jean-Luc Chrétien met très bien en évidence, dans les admirables textes qu'il choisit, un paradoxe qui est présent dans les textes d'Augustin. À la fois, l'orgueilleux a besoin d'être brisé pour devenir humble, et en même temps, Augustin ne cesse de dire que l'humble est au contraire celui qui n'est brisé par aucune épreuve. Mais ce n'est pas contradictoire. Commentant le psaume 109, bon, Dieu fracassera les rois, brisera beaucoup de têtes sur la terre, Augustin écrit « De superbes, il les rend humbles. Et j'ose le dire, mes frères, il est utile d'avoir la tête brisée et de cheminer ici avec humilité, plutôt que d'encourir la tête haute le jugement de la mort éternelle. Il brisera bien des têtes en faisant des ruines, mais en les accumulant, il les édifiera. » L'humble, au contraire, c'est-à-dire celui dont le cœur est prêt à espérer dans le Seigneur, eh bien c'est celui qui, pour Augustin, ne peut être brisé par aucune de ses épreuves. Ainsi, mais Jean-Luc Chrétien le met très bien en lumière, finalement ce que Dieu brise, ce n'est pas tant l'homme lui-même que son orgueil. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul dans sa conversion. Augustin explique « Dieu l'a jeté à terre, persécuteur, pour le relever, prédicateur. » Bref, Dieu ne protège pas notre fragilité, mais il fait de ses ruines un homme nouveau. Et dans un autre texte que vous citez également, le commentaire du psaume 148,8, on voit bien qu'Augustin exhorte l'humaine fragilité à ne pas désespérer. Que se dresse donc l'humaine fragilité? Qu'elle ne se désespère pas, qu'elle ne se brise pas, qu'elle ne se détourne pas, qu'elle ne dise pas « ce n'est pas pour moi ». Il s'agit de la contemplation de Dieu. En bref, ce qui est brisé, c'est vraiment l'orgueil qui est l'obstacle. Mais finalement, Dieu ne veut pas briser l'homme lui-même. Et cela, on le comprend d'autant plus quand on contemple, quand on voit l'incarnation, c'est-à-dire la venue de Dieu dans la fragilité, que bien évidemment Jean-Luc Chrétien développe également. La fragilité devient le lieu même où la force de Dieu communiquée à l'homme peut se déployer. Et on peut dire qu'il y avait une première venue dans la fragilité qui est advenue dans l'Écriture, et une seconde venue, donc dans l'incarnation elle-même, où le Christ transforme la fragilité même en chemin vers la justice, au lieu qu'elle ne soit un sol qui s'affaisse. On peut entendre ici un écho de Sénèque. Alors pour poursuivre cette belle méditation de Jean-Louis Chrétien, j'ai moi-même un peu approfondi les textes, j'ai cherché et j'ai admiré la somme de textes que vous avez trouvés, le choix des textes que vous avez trouvés. Ce qui m'a frappé moi-même en travaillant chez Augustin ce thème de la fragilité, de la brisure, c'est la richesse du vocabulaire augustinien. Comptero, broyé, pilé, frango, brisé, rompre, fracassé, élido, écrasé, brisé, broyé, fracassé, comme minuo, mettre en pièces. Bon, j'ai donné quelques exemples, et parce que j'ai été étonnée moi-même, c'est vrai que spontanément, je me suis dit, ben, il va être question du cœur brisé. Oui, mais pour briser, c'est cor contritum. C'est bien évidemment pas le verbe frangere qu'on utilise. Donc, quelques harmoniques. À propos du psaume 50-19, le sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé. Du cœur broyé et humilié, de Dieu n'a pas de mépris. Donc, c'est cor contritus, hein, ou contritum, pardon, et humilatum. Et ce qu'explique Augustin, c'est que finalement, c'est là le vrai sacrifice pour Dieu, et il l'identifie expressément à la confessio, et donc à l'humilité. Entre dans la maison de Dieu avec un cœur humble. C'est un commentaire du psaume 50, verset 19. Mais on trouve aussi dans l'écriture, le psaume 28, verset 5, voix du Seigneur brisant les cèdres. C'est toujours avec le même verbe contero. Voix du Seigneur brisant les cèdres. Et Augustin continue. Voix du Seigneur brisant le cœur des orgueilleux pour les amener à l'humilité. Le Seigneur brisera par la pénitence ceux qui se croient supérieurs en raison de l'éclat de leur noblesse terrestre. Il choisira ce qu'il y a de bas dans le monde pour manifester en eux sa divinité. Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'Augustin l'utilise à deux reprises dans les confessions, dans les confessions 8 et 9, pour évoquer la conversion. Mais il y a aussi le verbe élido, dont Augustin fait d'ailleurs allusion à ce verset du psaume 136, un verset un peu surprenant. « Heureux qui s'emparera de tes petits-enfants et les brisera sur la pierre ». Et quels sont les petits-enfants pour Augustin? Ce sont les mauvaises passions. Augustin n'est pas le premier à le dire.
Déjà Origène.
Oui, tout à fait. Et il faut briser déjà sur la pierre, la cupidita sur la pierre, c'est-à-dire sur le Christ, avant que la passion ne devienne une habitude et donc qu'elle ne soit indéracinable. Et il y a aussi un autre texte qui m'a intéressé, et je voudrais surtout m'attarder un tout petit peu à lui, c'est qui emploie encore un autre verbe, comme minuo, où il s'agit d'Adam qui se fracture et se répand sur la terre entière. C'est le commentaire du psaume 95, paragraphe 15. Je cite ma traduction. Adam, dans la langue grecque, signifie le monde. Ces quatre lettres, en effet, sont A, D, A, M. Or, en grec, les noms des quatre parties du monde commencent par ces lettres. Anatolé, l'Orient, Ducis, l'Occident, Arctos, le Nord, Messembria, le Midi. Tu as Adam. Adam donc a été dispersé sur toute la surface de la terre. Il a été en un seul lieu, mais il en est tombé et réduit pour ainsi dire en poussière. Comme nous tous, il a rempli le monde. Mais la miséricorde de Dieu a rassemblé de tous côtés ses débris, fracturas, et les a comme soudés au feu de la charité. Il a fait un ce qui avait été brisé. L'artisan sait le faire, que personne ne désespère. C'est beaucoup, certes, mais réfléchissez à qui est l'artisan. Alors, vous voyez ici que c'est la fragilité qui est, pour ainsi dire, qui disperse Adam, qui est répandu dans le monde entier, mais c'est la charité qui recolle, si je puis dire, qui fond en un seul tout les débris d'Adam. Et c'est là où je voudrais terminer en évoquant le rapport entre fragilité et charité chez Augustin. Parce que si l'orgueil a pour effet la chute et l'émiettement, la dispersion des hommes qui deviennent étrangers les uns aux autres, eh bien, son antidote, c'est la charité. Car la charité fraternelle est à la fois ce qui permet de trouver un repos dans l'expérience de l'humaine fragilité, mais aussi, quand nous l'exerçons nous-mêmes, ce qui peut remédier à notre fragilité. Et je citerai, et je terminerai par là, simplement deux textes d'Augustin. La lettre 73, au paragraphe 10, à Jérôme. Il faut savoir que la discussion avec Jérôme n'était pas très facile. Je parle de Saint Jérôme, bien sûr. Donc Jérôme a très mal pris les lettres d'Augustin. Mais Augustin, il va parler du rapport avec ses proches et il explique. Je me laisse d'autant plus facilement aller tout entier à leur charité que je suis fatigué des scandales du siècle et que je peux m'y reposer sans la moindre inquiétude. Car je sens que là se trouve Dieu auquel je peux sans souci me laisser aller et dans lequel je trouve sans souci le repos. Et dans cette absence de souci qui est mienne, je ne crains pas le moins du monde cet incertain lendemain de l'humaine fragilité sur laquelle je gémissais. En effet, lorsque je sens quelqu'un brûlé de charité chrétienne et que par elle, il me devient un ami fidèle, tout ce que je lui confie en fait de projet et de réflexion, je ne le confie pas à un homme, mais à celui dans lequel il vit et qui le rend semblable à lui. Dieu, en effet, est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc ici, on se repose de l'humaine fragilité dans la charité fraternelle, la vraie, celle qui est habitée par l'Esprit. Mais inversement, la charité que j'exerce moi-même, les œuvres de miséricorde, sont un remède à l'humaine fragilité, et vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre. Dans le commentaire du psaume 143, au paragraphe 7, Augustin associe, et c'est loin d'être la seule fois, la fragilitas à la demande du Notre Père, « Remets-nous comme nous remettons, remets-nous nos dettes. » Et il explique que cette œuvre de miséricorde, c'est aussi le don de l'Esprit en nous. S'il arrive que la fragilité humaine succombe aux ruses de l'ennemi, que l'humilité suive dans la confession, qu'elle s'exerce dans les œuvres de miséricorde et de piété. Tous nos péchés sont effacés quand d'un cœur vrai et avec une pleine confiance, nous disons à celui qui nous voit, pardonne-nous nos fautes comme nous aussi nous pardonnons. Qui remet, qui donne? N'est-ce pas la charité? Et d'où vient la charité, sinon de l'Esprit Saint qui nous a été donné? Alors, par ces quelques touches, j'ai essayé de vous donner envie peut-être de découvrir davantage le livre de Jean-Luc Chrétien, notamment ce très beau chapitre 7. Je voudrais simplement conclure en évoquant cette phrase qui achève presque le livre. C'est donc la fragilité seule qui forme la demeure de l'impérissable dans le monde. Voilà, donc après ces quelques mots, je suis heureuse de vous donner la parole pour répondre comme vous le souhaitez et nous dire ce que vous souhaitez.
On devrait mieux entendre.
Ça marche? Oui. Donc je remercie vivement Camille Riquet et Isabelle Baucher de l'attention avec laquelle ils ont lu ce livre. Et je me trouve dans une position un peu embarrassante parce qu'en principe je ne viens pas en public pour parler de moi ou en tout cas de mes travaux, mais pour parler d'un sujet défini. En tout cas là c'est un débat, c'est-à-dire que je n'ai pas préparé une conférence, je vais répondre à ce qui a pu être dit. D'autre part, quelle pénitence je devrais faire, n'est-ce pas, puisqu'il y a des conflits de devoirs. Quand Camille Riquet, emporté par une exaltation sans doute amicale, dans la même phrase, juxtaposé le nom de Husserl ou celui de Kant et le mien, mon devoir eût été de l'interrompre, mais ça aurait mal commencé la soirée, donc il faudra que je prenne sur moi ou que je me fasse imposer une pénitence particulièrement sévère pour avoir laissé sans protester, comme si je trouvais ça normal et succulent, des comparaisons écrasantes, n'est-ce pas, et qui ne font que que souligner ma fragilité. Et alors, la dernière fois que je suis venu ici, peut-être il y a 2 ans, c'était pour une soutenance de thèse. Donc, on y va avec une gravitas professorale. Enfin, rien ne peut se passer de mal, à part que les différents membres du jury ne soient pas d'accord entre eux sur l'appréciation des travaux. Tandis qu'ici, je risque bien, en parlant de la fragilité, d'une façon improvisée, de vous révéler jusqu'à quel point la mienne descend. Au moins, vous pourrez dire que je connais mon sujet, n'est-ce pas? Ça aura au moins cette... alors, ça, c'est ce qu'on appelle une captatio benevolentiae dans la rhétorique traditionnelle, n'est-ce pas? Quelques réponses à ce qu'a pu dire Camille Riquet. Alors, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit au départ, qui me paraît parfaitement juste. J'essaye de laisser parler des mots lourds, pas n'importe quel mot, mais des mots lourds de poids et de sens. Et là, vous avez des formules extrêmement justes. Au départ, d'ailleurs, j'avais pensé mettre le titre en italique, vous voyez, pour souligner et donc marquer qu'il s'agissait du terme lui-même. Alors, disons quelques mots de... l'environnement de ce mot même. Hein. Ce dont je pars, c'est du fait que fragilita, c'est un mot proprement latin, auquel aucun mot grec de la langue classique grecque ne correspond, et qui est passé à toutes les langues occidentales, romanes, mais aussi autres que romanes, par exemple l'anglais a emprunté au français la fragilité. Fragile et frêle sont deux doublés français, deux mots français, l'un proche du latin, l'autre un peu déformé, qui viennent du même mot fragilis, comme ça arrive souvent, n'est-ce pas? Et l'anglais a pris frail et frailty, ce qui est le mot le plus strict en anglais pour dire la fragilité au sens où j'en parle. Et donc c'est un mot tout à fait essentiel qui n'a pas de correspondant en grec. Il y a des mots grecs anciens pour dire qu'un objet est cassable, mais il n'y a pas de mot formé sur la brisure ou la possibilité de la brisure ou de la cassure qui désigne l'homme comme tel. Je commence par étudier des beaux textes grecs qui parlent de l'asthénéia, de la nature humaine, chez Platon, et puis aussi chez l'admirable historien du 1er siècle avant notre ère, qui est Diodore de Sicile. Asthénéia, c'est l'absence de sténos, de force, de vigueur. Alors, c'est un mot qui désigne ici... alors, on pourrait dire... quelle différence? C'est que justement le terme de fragilité ne désigne pas le manque de quelque chose, l'absence de quelque chose. C'est pas un terme privatif. À la différence, par exemple, de infirmus, qui n'a pas de fermeté. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le latin, la référence tout à l'heure à l'imbécilité, imbécile ou imbécilité en français désigne avant tout et de façon méprisante une diminution des facultés de discernement ou du savoir et avant tout un défaut mental. Tandis que en latin, c'est un terme pour dire la faiblesse physique. Hein, on peut dire, quand on parle de l'imbécilitas de quelqu'un, c'est le fait qu'il est faible, qu'il n'a pas tous ses moyens physiques. C'est pas un terme qui désigne l'intelligence de quelqu'un. Donc c'est un des synonymes aussi d'infirmitas, etc. Il y a des textes latins sur l'inbecilitas féminine, qui ne signifie pas que la femme est stupide, mais qu'elle est physiquement, à tort ou à raison, ce propos, moins forte que l'homme. C'est juste une petite précision. Donc c'est un terme spécifique, et ce qui est important, c'est qu'évidemment, on ne se brise que selon soi. On ne se brise que selon ses propres failles, qui évidemment ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à l'autre ou d'un âge de la vie à l'autre. C'est une possibilité interne. Elle peut passer à l'acte du fait d'une action extérieure, mais nous sommes toujours déjà fragiles. Alors, la fragilitas avait des cousines multiples qui sont passées aussi en français, mais dans un français savant et quelque peu archaïque, qui sont sur la racine du glissement, de la chute ou du glissement. Ailleurs, il y a lubricité, lubrique, qui maintenant est un terme tout à fait archaïque et qui n'évoque qu'un penchant déplacé aux excès sexuels, et en particulier dans la phrase qui est une sorte de cliché un peu vieilli, c'est un peu embêtant à mon âge de le dire, un vieillard lubrique, n'est-ce pas, c'est un cliché, mais en latin lubrique est beaucoup plus général, c'est la même racine que vous trouvez dans lubrifier, lubrifiant, c'est-à-dire ça désigne le fait qu'on peut glisser et donc tomber et donc se blesser. Quand des auteurs français de la Renaissance parlent d'un espoir lubrique, c'est pas un espoir de débauche, c'est un espoir fragile, incertain, qui n'est pas du tout, dont on ne peut pas du tout compter qui se réalise, vous voyez, qui peut se briser. Alors, labile aussi, la labilité, c'est la même racine de glisser, vous voyez, est tombé, et caducité, caduc, maintenant ça signifie périmé, qui n'a plus aucune actualité, alors que là c'est la racine de la chute, et donc ce qui est caduc, c'est ce qui peut tomber et se briser. Donc on parle aussi de la caducité de la condition humaine, non pas que l'homme est périmé, comme le dit le transhumanisme, je crois. Je ne sais même pas ce que c'est, vous voyez à quel point je suis ignorant. Mais ça signifie que l'homme est voué à la chute, à la perte, donc à la maladie et à la mort. Donc il y a toute une constellation de termes dans le même champ sémantique, mais vous voyez que comme infirmus, qui manque de fermeté, ce qui est central dans la fragilité, c'est la possibilité de se briser. Alors elle vaut de l'homme et elle vaut de tout ce qui est humain. C'est pourquoi vous vous êtes concentré dans vos interventions surtout sur la fin du livre, qui est une sorte d'histoire centrée sur des auteurs fondamentaux du concept même de fragilité. Mais tout le début du livre est consacré précisément à des descriptions des différentes formes de la fragilité. Alors j'ai commencé par le commencement, c'est-à-dire la naissance, qui est précisément pour nous tous le premier miroir de la condition humaine. Alors, sur la fragilité de l'homme à sa naissance, il ne faudrait pas non plus oublier que dans tous les propos sur la caducité, la fragilité humaine, que l'espérance de vie jusqu'à une période récente était tout à fait différente de la nôtre, n'est-ce pas, et que en particulier ce qui baissait considérablement l'espérance de vie comme moyenne, c'était la mortalité infantile, qui était terrible. C'était à partir du début du XIXe siècle, ça a commencé à diminuer. Mortalité infantile, mais aussi mortalité maternelle. Des femmes en couche ou à l'accouchement qui était très grand. Un sociologue a écrit un très beau livre, tome 1, il n'y a jamais eu tome 2, c'est la fragilité humaine, intitulé Famille, où il disait justement que au XVIe siècle, au XVIIe siècle, un homme, à moins qu'il ne mourût lui-même jeune, devait être préparé à ce qu'il ait plusieurs femmes dans sa vie, et que donc les enfants de la première seraient élevés par une seconde, etc. Que ça a changé complètement les rapports familiaux quand cette fragilité liée beaucoup aux accouchements, aux infections ou aux problèmes de l'accouchement. Donc ça ne signifie pas que les anciens étaient sombres, n'est-ce pas, en méditant sans fin sur la fragilité de la vie humaine, ça signifie aussi que très concrètement, ils en avaient autrement que nous, ou enfin dans certaines parties du monde, l'expérience, et que c'était parfaitement conforme à la réalité de leur expérience quotidienne. Donc je commence par la naissance, la fragilité de l'enfant, car rien ne pouvait briser, qui est alors là un miroir de notre condition, que les auteurs, selon l'angle qu'ils prennent, peuvent décrire justement comme une lumière qui s'allume, qu'un rien pourrait éteindre, mais qui est toute notre espérance en tant que qu'être humain. Ou bien, comme le pape Innocent III, dans son traité sinistre sur la condition humaine, qui a eu beaucoup de succès, qui est du Schopenhauer avant la lettre, voit déjà tout le malheur de l'homme dans la détresse de l'enfant. Les uns, d'après le pape Innocent III, crie l'auteur de Séni, crie et les autres crient « Ah !» ce qui fait Eva, Ève, responsable de notre fragilité par la chute. Je ne prends pas ceci à mon compte, mais je cite le traité de la condition humaine, assez bref d'ailleurs, de Luther. Alors ça, c'est une vision de la naissance comme quelque chose d'extrêmement inquiétant. Après avoir cité des textes de ce genre, je cite l'admirable page de Tertullien qui dit que justement celui qui méprise les conditions de l'homme et les conditions de son apparition, de sa naissance, méprise l'homme lui-même. Vous voyez, ceci est le point de départ. Alors, la fragilité de l'homme, c'est aussi la fragilité de tout ce qui est humain. Et c'est en quoi le chapitre sur les ruines que vous avez cité, qui vient plus tard, est un chapitre pour moi très important dans l'économie du livre. Parce que précisément, on est prêt, en tout cas un homme digne, est prêt à sacrifier et à sacrifier sa vie pour ce qui donne sens à la vie humaine et donc pour la collectivité ou les institutions ou la civilisation à laquelle il appartient. Donc une fragilité plus forte que d'autres, c'est la fragilité du sol même historique sur lequel nous nous tenons, tout ce par quoi nous avons été rendus possibles, tout ce qui pour nous a sens, et donc l'effondrement d'une ville ou de certains bâtiments communs, leur destruction violente, c'est un effondrement sui generis qui nous atteint tous, n'est-ce pas, même si ce n'est pas seulement tuer des hommes. Donc, penser les ruines, être face aux ruines d'une civilisation qui fut grande, alors là, c'est un miroir de notre fragilité collective. Vous voyez, elle change au fil du temps, c'est-à-dire que pour les anciens, la vision des ruines n'était que sombre et triste, n'est-ce pas, même quand c'était les ruines de l'ennemi, qu'on était bien content, comme les ruines de Carthage pour les Romains, c'était leur ennemi héréditaire, n'est-ce pas, mais il peut y avoir une compassion sur les ruines de Carthage. Ensuite, il y a beaucoup plus tard, il peut y avoir une esthétisation du rapport aux ruines, dont l'exemple le plus monstrueux, que je n'ai pas cité dans le livre, c'est lors des attentats et destructions du 11 septembre 2001, grand compositeur, on ne peut rien pas lui ôter, par charité, je tairai son nom, mais sa déclaration a été publique, un grand compositeur a dit des avions qui s'écrasaient contre les tours, c'est la plus grande œuvre d'art jamais réalisée. Alors, j'ai vu cette phrase dans ce journal avec un certain saisissement, n'est-ce pas, y compris qu'on lui donnait publicité. Il a fait ses excuses quelques jours plus tard, mais vous voyez à quoi peut conduire ce que j'appelle l'esthétisation du rapport. Oui, alors c'est un cas superlatif et extrême. N'est-ce pas? Mais ça commence, la condition de possibilité de ça commence plus tôt. Camille Riquet a introduit une dimension agonique et polémique entre fragilité et vulnérabilité. Vous avez très bien fait de dire que ce n'est pas mon cas. Je pense vulnérabilité comme plus limitée, plus étroit que fragilité. Alors, sur la polémique... une chose que j'ai souvent dite en cours, et que vous me permettrez de vous dire, quand j'étais étudiant dans une grande bibliothèque, j'étais dans les rayons et je voyais les œuvres d'Antoine Arnauld, le grand Arnauld. Comme chacun, enfin pas chacun, mais en tout cas, je pense que les jésuites du centre Sèvres savent que je ne suis pas janséniste. vous ne prendrez pas mal que je cite pour exemple Antoine Arnauld, n'est-ce pas? Je pourrais sortir vivant de de cette institution. Donc Antoine Arnauld, celui qu'on appelle le grand Arnauld, ses œuvres ont un immense rayon. Je me posais la question avec la naïveté d'un très jeune homme. Je me dis, mais comment se fait-il qu'un tel homme qui a tellement écrit, qui a correspondu avec les plus grands esprits de son temps, Leibniz et beaucoup d'autres, pourquoi est-il totalement oublié? Et quand on examine la table des matières, on comprend très bien la réponse. Parce que l'essentiel de ces énormes volumes, c'est de la polémique. Et des polémiques forcément répétitives, violentes, alors très brillantes dans leur style. Et les polémiques sont ce qui vieillit le plus mal et ce qui est le plus daté, en quelque sorte. Et puis, intelligenti pauca, comme on dit en latin, à l'homme qui intelligent, peu de choses suffisent, peu de mots suffisent. Donc je préfère procéder ainsi que de polémiquer et de garder un ton plus ironique. Alors ce qui a pesé souvent sur la compréhension ou l'incompréhension du mot fragilité, c'est qu'il n'a pas d'antonyme direct, ce que vous disiez tout à l'heure. Il y en a bien un en latin, mais c'est un mot très rare, infragilis, non fragile, qui peut s'appliquer. Ça veut dire qu'on est indestructible, que rien ne peut nous briser. Et donc c'est un terme qui ne pourrait qualifier que ce qui est éternel ou que Dieu... lui-même, on ne peut pas dire qu'un homme serait une fragilité, c'est non possible. Sa fragilité peut être plus ou moins grande, mais il est impossible qu'elle n'existe pas. Alors, quand on n'a pas d'antonyme, il y a des intrus qui arrivent, n'est-ce pas? Des mots qui cherchent à se glisser pour occuper une bonne place au soleil de la parole. Et effectivement, c'est ce qui a tendu à réduire la fragilité à la faiblesse, que force a été pris pour antonyme de fragile. Il y a aussi un emploi, disons, euphémique que je n'aborde pas de fragile, qui caractérise surtout l'emploi actuel, c'est-à-dire quand on dit faites pas très attention à l'attente une telle ou à l'oncle un tel, il est un peu fragile, ça veut dire qu'il est complètement psychotique, n'est-ce pas, que son comportement peut être absolument erratique. Donc on vous prévient, c'est l'emploi euphémique de fragile. Donc, pour moi, c'était un fil conducteur à travers l'Europe occidentale et son histoire dans tous les ordres, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est le seul mot, mais c'est un mot qui fait traverser toutes les pensées et littératures de l'Europe moderne après Rome. Alors, s'agissant de... du chapitre sur Kant que Camille Riquet évoquait, je dois dire que ça fait partie des surprises du travail, c'est-à-dire que je n'aurais pas pensé quand j'ai eu la première idée du livre que le titre sur Kant s'appellerait Kant et l'exténuation de la fragilité au sens étymologique, n'est-ce pas, qu'elle devient moins importante, sans beaucoup de relief, voyez, enfin, elle tend à disparaître. Parce que ce qui m'avait frappé d'une lecture de jeunesse de la religion dans les mythes de la simple raison, c'était que justement, c'était le seul grand auteur allemand classique pour qui Gebrechlichkeit, qui correspond en allemand à fragilité, était un terme important, un concept dans la philosophie. C'est par une étude plus tardive et beaucoup plus attentive que j'ai été conduit à voir que je m'étais trompé dans cette première estimation. De la même façon que pour ceux qui ne sont pas experts dans ces choses-là, hein, le mal radical dont vous parliez, qui est une expression associée à ce livre, ne signifie pas du tout un mal extrême ou particulièrement horrible, mais un mal qui se trouve à la racine de l'homme. En ce sens-là... même s'ils n'ont pas le mot, toutes les doctrines chrétiennes du péché originé, c'est des traces en nous du péché originel, sont des théories du penchant au mal, non pas du mal, mais du penchant au mal radical dans la racine même de l'homme. Alors, s'agissant de l'histoire du terme, la rupture est vraiment la rupture chrétienne. Hein, c'est-à-dire que c'est avec les pères de l'Église latine que fragilitas prend directement un sens éthique. Qui n'avait pas auparavant, où on insistait sur le fait que tout ce qui est humain peut se briser, se détruire, alors physiquement, tout ce que fait l'homme, les villes, les civilisations, etc. Mais il n'y avait pas de lien direct entre le terme de fragilis et le terme... et le mal au sens éthique. Le sens qu'introduit la langue latine chrétienne, c'est précisément celui de fragilitas comme penchant au mal. Et ça, c'est tout à fait décisif, puisque ça élargit la signification, et ça fait aussi que la pire fragilité, c'est celle-là. C'est-à-dire, ce qui peut m'arriver de pire, c'est pas d'être malade ou de me casser la jambe ou de mourir, mais c'est de devenir un monstre. Enfin, je veux dire, c'est de devenir quelqu'un qui donne la mort à autrui, par exemple. Bon, et c'est en cela que ça donne à l'horizon de sens et aux méditations là-dessus un espace beaucoup plus grand. Alors, Vous avez évoqué aussi l'acrasia. Alors, l'acrasia, c'est un terme de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, qui a pris dans la philosophie anglo-saxonne contemporaine une très 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 grande importance. Il y a des centaines d'articles là-dessus. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que j'aurais souhaité faire, n'est-ce pas? J'avais de très bonnes intentions et puis j'ai fait le contraire. Ça devient la question de la force ou de la faiblesse de la volonté. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de concept de volonté. Il y a des concepts extrêmement différenciés et plus que les nôtres du désir. Et le désir, pour les Grecs, il y a aussi un désir dans la pensée, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de concept de volonté, c'est latin également. On peut discuter sur la force ou la faiblesse de la volonté, ça concernerait aussi des problèmes de la fragilité, mais on voit la source dans Aristote, c'est une vision tout à fait déformée, n'est-ce pas, où ça tient très peu de place chez lui. Un compte-rendu de mon livre qu'on m'a envoyé me reprochait de ne pas parler de ça, mais j'en parle en note pour expliquer pourquoi je n'en parle pas. Et on me reprochait également de ne pas citer le livre de Martha Nussbaum, très célèbre, The Fragility of Goodness. Je cite ce livre pour expliquer pourquoi je n'en parle pas, c'est-à-dire que c'est son droit et sa fantaisie de donner un titre non grec à des choses grecques, enfin d'employer un concept qui n'existe pas en grec pour des choses grecques. Les méthodes de Hollywood sont passées aussi dans la philosophie. Vous voyez, les films historiques, etc. Le peu de rapport entre la réalité historique et les acteurs ou les décors qu'on voit ou ce qu'ils font, c'est passé aussi en histoire de la philosophie. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a autant de succès que des films hollywoodiens. Elle ne dit rien sur la fragilité, puisqu'elle parle des Grecs qui n'en parlent pas. Elle emploie le mot « elle », mais c'est une insertion, n'est-ce pas, qu'elle fait, c'est son droit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça soit un ouvrage de référence sur le terme de fragilité. Vous voyez, bien au contraire. C'est un peu difficile de faire une réponse ordonnée à la multiplicité des questions qui ont été faites. Alors, je prends acte, cher ami, du fait que j'ai augustinisé Jérôme, Ambroise, que j'ai mis plus de brisures qu'il n'y en avait. Là, je ne peux pas discuter le détail parce qu'il faudrait évidemment que j'ai juste les textes sous les yeux. Dans un livre sur la fragilité, c'est un péché qui me paraît véniel, si vous voulez, de tirer dans le sens du sujet plutôt que de ne pas le voir là où il serait. Et d'autre part, qu'on l'exprime dans le langage de la brisure ou pas explicitement, il y a quand même cette dimension la conversion, c'est le passage de l'homme ancien, du vieil homme à l'homme nouveau. Et ce passage se fait par une sorte de mort. Parler de brisure du vieil homme, même si le mot n'y est pas, je pense en tout cas que votre grande miséricorde me le pardonnera. Où peut-on voir une transfiguration de la fragilité? Vous citiez, je vous en remercie, la fin du livre où je cite P. Peggy, c'est la voix. Alors, c'est un thème que j'ai abordé dans des œuvres antérieures. C'était le titre d'un livre ancien de moi, La voix nue, n'est-ce pas? Alors, j'y reviens souvent. La voix, qu'est-ce qu'il y a de plus fragile qu'un simple enrouement peut abolir ou briser ou empêcher et ce qui porte et transmet le sens. Et alors là, tous ces auteurs multiples de différents pays et du passé que je cite, alors au sens courant qu'on emploie à ce terme, où on prend ce terme, je ne dirais pas que je suis traditionnaliste. En revanche, il me semble faire partie de ce qui est l'une des dernières ou la dernière génération qui considérait que il y avait toute une histoire dont je venais intellectuelle dont on avait à répondre. Répondre, ça signifie pas faire comme si on était des Grecs anciens ou des Latins cicéroniens, mais que c'était l'une des sources fondamentales de notre culture, et donc cette éducation gréco-latine faisait qu'on avait d'une certaine façon à répondre de la tradition, voyez, pas répondre d'elle. Ça veut dire dialoguer avec elle, ce qui peut impliquer critique, rejet, mais qu'elle soit présente comme quelque chose dont on ne pouvait pas se dispenser. À quoi s'ajoute mon appartenance plus tardive au christianisme et à la tradition chrétienne. Alors, ça signifie que cette polyphonie à laquelle je tiens beaucoup, non pas pour partir dans tous les sens, mais justement, aujourd'hui, l'activité universitaire principale est celle qui est la mieux considérée par les gens qui distribuent des bourses ou nomment des collègues, c'est d'organiser des colloques internationaux. Alors, international, c'est pas compliqué. Il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui soient pas françaises pour dire colloque international. Ça fait tout de suite plus imposant. Vous voyez, ça paraît d'importance mondiale. Toute pensée est un colloque. Un colloque avec ceux qui sont physiquement absents. Être dans une bibliothèque, c'est être dans une symphonie muette, n'est-ce pas? Mais qu'il suffit pour faire résonner tel ou tel instrument à vos oreilles que vous preniez le livre et l'ouvriez, n'est-ce pas? Plutôt que de m'expliquer avec mes contemporains de façon polémique, je préfère dialoguer avec des gens de toute époque, hein. C'est pas seulement de l'Antiquité, il y en a de tout à fait modernes, mais d'une façon pacifique, où chacun a quelque chose à apporter, à contribuer. Vous voyez, c'est comme ces repas collectifs où chacun apporte un plat. Pour moi, penser, c'est aussi participer à une sorte de symposium où chacun apporte sa parole et on essaye de les faire se rencontrer, non pas pour aboutir à un unanimisme imaginaire qui serait tout à fait arbitraire de ma part en disant que tout le monde dit la même chose au fond. J'espère qu'on peut me faire le crédit que j'analyse les fines différences entre des paroles éminemment voisines. Mais j'ai voulu montrer justement que la fragilité n'était pas seulement un thème savant de l'histoire de la philosophie comme un concept philosophique, mais qu'elle était présente dans la poésie, le roman et toutes sortes d'histoires, l'art lui-même. Et c'est en quoi le chapitre sur les ruines dont j'étais parti et dont j'ai dévié me paraît tout à fait décisif. Et alors... ce que j'appelle transfiguration de la fragilité, mais qui dans mon livre revient à propos de différentes choses, la transfiguration, c'est pas l'abolition ou la destruction, c'est qu'un terme qui précisément, et a fortiori dans le langage chrétien, à partir de l'origine latine, où fragilité prend le sens de penchant au mal, beaucoup d'entre vous, mais sans doute pas tous, doivent savoir qu'autrefois, justement, en théologie morale, il était courant de distinguer des fautes de fragilité et des fautes de malignité. Les fautes commises par fragilité, ça veut dire que, étant homme fragile, il est inévitable qu'on commette un certain nombre de manquements qui tiennent précisément à cette fragilité fondamentale, mais que si ce sont bien des fautes, ce ne sont pas pour autant une tombée plénière de notre être dans la malignité. Vous voyez, quand il disait que c'est par fragilité, c'était aussi une sorte d'excuse de certaines fautes mineures. Et donc, transfiguration, c'est pas l'abolir, c'est qu'on en fasse un autre usage. Et vous voyez que si j'étais absolument sûr que ma volonté, une fois posée, reste imperturbable et ne change jamais, y aurait-il un lieu pour la promesse ? Vous voyez ? On ne peut promettre, c'est-à-dire engager solennellement sa foi et sa volonté envers quelqu'un, de faire quelque chose, parce que cette promesse est un acte, précisément, par lequel nous nous guillons nous-mêmes. Et on ne peut promettre quelque chose que si c'est justement quelque chose qui peut présenter autrement, ça n'a pas de sens. Vous voyez, pour des choses sans importance ou enfin, qui ne sont pas un engagement, on ne peut promettre et s'engager fermement que parce qu'on sait qu'il y a des penchants en nous ou des tentations en nous de se dérober ou de résister ou de trahir ce à quoi on s'est engagé. De la même façon, sans fragilité, pas d'espérance, pour les mêmes raisons que ce que je viens d'indiquer. Seule une créature espère, vous voyez. Elle espère parce que justement elle n'est complètement maîtresse ni de son destin ni d'elle-même totalement ou de ses penchants et donc espérer c'est tenir ferme. Tenir ferme, ça suppose qu'il y a des forces en moi ou des penchants en moi qui pourraient me faire lâcher la corde que je tiens ou la conduite que j'ai résolue de tenir. Et précisément, c'est pourquoi aussi nous nous soutenons contre nos fragilités respectives. Enfin, comme notre fragilité n'est pas la même individuellement, ou par rapport aux gens à qui on vit, ou les gens qu'on, les amis, les gens qu'on fréquente, on n'est pas en miroir, n'est-ce pas? Donc, il y a des points sur lesquels on a beaucoup plus de force d'âme que l'autre, et inversement, donc on soutient en cela, une fraternité dans la fragilité, c'est pas une fragilité, c'est pas une fraternité de déchéance, d'abandon et de laisser aller. C'est comme dans une vie en communauté aussi, précisément, on sait que l'autre a ses points faibles et on soutient en cela, mais c'est pas s'y entraîner les uns des autres. Et c'est en quoi on peut faire le rapprochement, comme j'ai fait, avec les phrases de saint Paul aux Corinthiens sur là où je suis faible, c'est là que je suis fort. C'est-à-dire que la fragilité, qui par son image de brisure ou de faille pourrait sembler tout le contraire d'un fondement, vous voyez, de ce sur quoi on construit, ce que le fondement doit être par définition solide, et en tout cas le plus sûr fondement de l'existence humaine comme telle. Alors que je dis que la fragilité nous prend souvent atergo, c'est une expression latine pour dire de dos par derrière, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la fragilité, c'est dans l'insurveillé. De dos, l'insurveillé, c'est pareil. Bon. L'insurveillé, c'est l'insurveillé de ce par quoi précisément nous croyons n'être pas fragile. C'est la conviction de notre force. C'est la conviction de notre science qui a tout prévu, vous voyez, et parée d'emblée à toute éventualité, on n'est qu'au début de l'ère de la fragilité par l'informatique qui dirige tout. Je ne suis pas un expert en cette matière, c'est une fable chez mes amis, c'est-à-dire que je n'y connais rien, mais vous voyez que, par exemple, dans la guerre, y compris la guerre terroriste, quand des réseaux informatiques dirigent tout, les déplacements, les commandes, etc., ça sera forcément un jour ou l'autre le point faible attaqué. Si une panne accidentelle de la SNCF peut paralyser tous les transports, ça peut aussi paralyser d'autres choses. Donc c'est précisément la sensation de tout contrôler, de tout maîtriser, ou en tout cas le domaine dont on est responsable, qui est le lieu le plus aigu, collectivement, individuellement et collectivement, de la fragilité. Ce que je reproche, parce que là c'est un peu polémique, vous n'avez pas noté, mais peut-être vous aurez remarqué, que si je mets Pierre Nicole en symbiose avec Sénèque, Pierre Nicole, c'est un, pour ceux auxquels il ne serait pas familier, c'est un écrivain non tout à fait dépourvu de talent, en tout cas il a un beau français du XVIIe siècle. Madame de Sévigné en raffolait. Alors ça, donc, je m'incline après vous, madame la marquise. Il a écrit justement un traité de sur la condition humaine dont elle faisait grand cas. Alors, ce que je reproche à cette approche de la fragilité, c'est que c'est une sorte de, ça risque de devenir une sorte de slogan vide, vous voyez, surtout N'oubliez pas votre fragilité, comme une méditation de sa fragilité qu'on ferait tous les matins. Mais c'est répétitif et assez creux, finalement, comme si on se répétait tout le temps. Souviens-toi que tu n'es qu'un être humain. Bon, on le sait une fois pour toutes. Vous voyez, c'est une méditation vide. Alors que la méditation précieuse sur la fragilité, c'est la méditation sur ma fragilité, sur notre, pour une communauté ou une collectivité, sur notre fragilité, et pas simplement parce qu'on est des êtres humains, mais des fragilités déterminées, des périls déterminés ou particuliers. Le fait que des démarches historiques se renversent dans l'exact contraire de ce qu'on avait souhaité ou voulu est la marque d'un déficit soit de discernement soit d'action qui fait partie de la fragilitas, vous voyez, et collective et qui les campagnes de Russie, on peut excuser le roi de Suède, Charles XII, parce qu'il était le premier, enfin à notre époque, à l'époque moderne, à essayer de conquérir la Russie. Il n'avait pas compris ce qu'il attendait avec l'hiver russe. Mais Napoléon Bonaparte, il connaissait Charles XII. D'ailleurs, Voltaire a écrit une histoire de Charles XII. Quant à Hitler, il connaissait les deux précédents et au moins le second, n'est-ce pas? Mais ça nous traîne. Alors, en l'occurrence, on peut se réjouir de leur fragilité, n'est-ce pas? Puisque c'est ce qui a entraîné précisément leur perdition ou leur défaite. Mais c'est la discerner et lutter contre elle dans tous les domaines. Et puis alors, nous n'aurons pas parlé du lien éventuel entre beauté et fragilité. Si je consacre un chapitre, je n'ai pas le temps d'en parler, mais alors, il y a la beauté fugitive, la beauté du fragile qui caractérise certaines formes d'art. Vous avez des beaux morceaux très très brefs de Prokofiev, musicien russe, vision fugitive. Vous avez l'impressionnisme aussi qui est montrer un visage du monde, une lumière, un lieu qui ne dure qu'un instant, qui aura disparu. L'instant d'avant, c'était pas aussi beau. L'instant d'après, ça ne sera plus. Mais on l'a fixé. Il y a une poésie aussi de la brièveté et de de l'absence d'emphase et une poésie du quotidien. Par exemple, on pourrait citer, j'en ai pas parlé dans mon livre, mais la grande poétesse américaine du 19e siècle, Emily Dickinson. Il y a une dimension de poétique du fragile. Alors, mais ça laisse l'occasion, évidemment, de poursuivre ces réflexions sans limite. Je m'en tiens là.
Je crois que malheureusement, nous n'avons pas le temps pour les questions. Sauf si vous